Français sont-ils toujours contre, par principe, réfractaires au changement, ayant peur qu'on bouscule leurs petites habitudes? Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron hier en déplacement à Saint-Dié.
On a pris en France une habitude qui est l'habitude de la plainte. On ne propose plus, on ne veut plus, mais on est contre. On regarde son petit bout de lopin et on dit voilà, on m'a enlevé ça. On s'est habitué parfois à ne pas prendre toutes ses responsabilités. Je le dis très clairement, la seule manière de redresser le pays, c'est de prendre sa part de responsabilité.
Alors c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les Français sont des râleurs qui ont toujours peur du changement? Nathalie Arthaud.
Moi, j'ai entendu effectivement sa déclaration. J'ai trouvé qu'elle était d'un mépris achevé. Voilà. Est-ce que l'aide-soignante qui l'a interpellée à Rouen, au CHU de Rouen, râle pour rien? Est-ce que les salariés de Carrefour râlent pour rien? Est-ce que les cheminots aujourd'hui, qui vont voir effectivement leurs conditions de travail reculer, râlent pour rien? Non. D'abord, ils ne se plaignent pas, ils se battent. Ils se battent contre une politique qui, effectivement, va faire reculer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, tout simplement. Et moi, je pense que oui, il n'y a aucune raison de se battre. J'ai bien entendu, effectivement, l'humeur de Roselyne Bachelot. Je l'ai entendu dire qu'il faut regarder autour de nous. Oui, d'accord, regardons autour de nous. Et regardons que, effectivement, la France est un pays très riche, que, effectivement, il y a beaucoup d'argent dans la société, qu'il y a eu 93 milliards de bénéfices réalisés, que les fortunes s'amontent. À un pôle de la société. Oui, et donc pourquoi les classes populaires devraient-elles encore et toujours faire des sacrifices et faire des efforts? Voilà.
Oui, mais Nathalie Arthaud, ce qui est souligné, c'est que les faits que vous dénoncez à juste ou à mauvais titre existent dans d'autres pays. Et pourtant, les personnes n'ont pas la même perception du malheur.
J'ai cru comprendre. Alors, la perception du malheur, du bonheur, ça, moi, je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre qu'en Allemagne, il y a une grande grève dans la fonction publique qui a conduit à 7% d'augmentation de salaire des agents de la fonction publique. Je pense aussi que voilà, les grèves et les mécontentements, ce n'est pas non plus un monopole
de
notre pays.
C'est une... Je voudrais qu'on voit ces images d'Emmanuel Macron en déplacement à Saint-Dié hier et qui est toujours dans les Vosges aujourd'hui. Il a été applaudi par certains et puis il a été chahuté par d'autres. Regardez.
La dette, il faut la reprendre. Il n'y a plus de sous pour entretenir les voies.
Mais arrêtez, je suis là pour répondre.
Est-ce que vous saluez au moins de la part du président de la République sa volonté d'aller au contact et de ne pas échapper aux interpellations des gens qu'on a vus hier ou encore ce matin?
Non, moi je trouve que effectivement il est très bravache. Enfin bon, voilà, il est dans. Il est très très content de lui. Voilà. Il est très content de lui, il veut montrer que bah voilà, lui, il est capable de répondre,
etc. C'est un peu un procès d'intention, ça.
Mais non, c'est sa façon d'être, je pense, c'est comme ça. Maintenant, je voulais, c'est pas tellement sur la forme, je voudrais répondre sur le fond, qui c'est un peu ce qu'il dit aussi quand il explique que les Français ont l'habitude de se plaindre. Et puis, ce que vous avez dit sur le plateau, nous sommes des enfants gâtés. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Qui nous? Qui nous? Oui, peut-être qu'il y a une frange, et oui, il y a une frange dans la société qui prospère, qu'on peut considérer comme des enfants gâtés. Oui, sans aucun doute, aujourd'hui, on peut aller dans certains magasins acheter un sac à main, une paire de chaussures pour 2000, 3000 euros, ce que mettront 3 mois, pour 3 mois de travail pour certains, pour gagner. 3000 euros pour beaucoup, parce que de l'autre côté de la société, il y a quand même aujourd'hui dans notre pays 6 millions de femmes et d'hommes qui cherchent un vrai boulot, un boulot à temps plein, un boulot pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer ses factures, pouvoir se projeter. Il y a des millions de salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire, parce que leur salaire c'est 1300, parce que c'est 1200 euros net, parce qu'il y a ces temps partiels. Il y a des travailleurs pauvres dans le pays, de plus en plus, 9 millions de pauvres. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants. Non, il y a des classes sociales dans la société, voilà, il y a des très riches, il y a effectivement les travailleurs, il y a l'exploitation, et je suis désolée, mais quand je vous entends dire qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, Mais encore heureux, on est au 21e siècle. Toutes ces richesses, elles ont été effectivement produites, elles ont été fabriquées. Tout ça, c'est un acquis du travail collectif, de génération et de génération.
Non, mais Nathalie Arthaud, vous avez raison, il faut éviter les discours globalisants.
Donc, non, nous sommes des enregatés, pas d'accord du tout. Vous savez, moi, j'ai été frappée, parce que vous dites, on a la culture de la contestation. Mais écoutez, quand j'ai entendu que Whirlpool proposait à ses salariés un sèche-linge en guise de solde de tout compte, quand j'ai entendu Carrefour avec sa prime de participation de 57 euros, mais c'est honteux.
On reprend pour vous, la colère est légitime.
Non, mais bien sûr qu'elle est légitime. Et encore une fois, il y a des classes sociales, c'est pas nous. Il faut être du bon côté du manche pour être des enfants gâtés, mais c'est pas le cas.
Et après.
Non, je voulais dire c'est vous qui êtes interpellé par Nathalie Arthaud. C'est vous qui avez parlé d'enfants gâtés.
Non, c'est moi. Vous êtes deux à avoir parlé d'enfants gâtés. Et Macron aussi, en réalité, parce qu'en fait, c'est ça qu'il insinue.
Oh non.
Excusez-moi. Moi, j'ai parlé d'une génération gâtée. Une génération qui. Et je crois qu'il y a un processus dans l'histoire. Que, je le dis sans aucune polémique. Le fait qu'il y a eu des changements dans le bon sens de la vie en général. Évidemment, les riches sont plus riches que les pauvres. Ils l'étaient il y a 50 ans, ils le sont aujourd'hui.
Mais les écarts se creusent.
Mais les pauvres, même si les écarts se creusent, ceux qui sont dans de mauvaises conditions vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ou 70 ans. La preuve est un système social.
Faut-il s'en contenter alors que justement, pauvres, mais ce sont les travailleurs, ce sont ceux qui créent les richesses.
Je n'ai pas dit ça.
Doivent-ils s'en contenter ?
Je n'ai pas dit ça. Dans un cadre de polémique. Je dis ça dans un cadre de constatation que, comme quoi, dans la société européenne actuelle, il y a quand même aussi des raisons d'optimisme et pas que des raisons de pessimisme. Au moins ça, disons-le, non ?
Les raisons d'optimisme, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour leurs droits, qui n'acceptent pas. Effectivement, moi, c'est ça, les raisons d'optimisme, c'est qu'il y a une journée de grève aujourd'hui, qu'il y a des gens qui relèvent la tête et qui disent ça suffit.
J'espère que
pour moi, c'est
la grande raison d'optimisme des Français de penser qu'il y a une journée de grève et qu'il y a aussi un pays absolument extraordinaire dans sa localisation, dans sa géographie, dans son système d'éducation, même si on peut dire qu'il y a des réformes à faire avec un système social tout à fait performant, un accès aux soins incomparable par rapport à bien d'autres pays, un accès à l'éducation incomparable par rapport à bien d'autres pays, on a raison d'être optimiste.
Mais c'est justement ça que les Français veulent préserver.
Oui, non, mais enfin, bien sûr, mais... Non, mais attendez,
il n'y a pas... Vous voulez préserver la chute aux enfers de l'éducation nationale ?
Il n'y a pas seulement...
On est en train de descendre, l'éducation nationale.
Non, mais sur l'éducation nationale, d'où le paradoxe entre une vision qui est une vision pessimiste que certains appellent décliniste, mais qui est en fait un constat du fait qu'il y a des pertes de droits, des pertes de performance, des pertes de qualité, et à côté de ça, cette idée qu'il y a une revendication qui est celle de maintenir ce... Nous vivons en effet dans un moment de l'histoire qui est absolument fabuleux et dont nous pouvons nous réjouir, c'est-à-dire que même s'il reste des inégalités, même s'il y a des choses intolérables, nous avons la chance de vivre dans un espace où nous vivons bien, où nous pouvons tout de même
avoir droit à des milliards de gens qui souhaitent prendre ce combat.
Oui, alors à ceci près que nous le devons aussi, et c'est bien là où il faut se méfier, Nathalie Arthaud, nous le devons pas seulement au travail de toutes les générations qui ont bossé, mais aussi au fait à l'exploitation du reste du monde,
absolument,
à la délocalisation de notre pollution dans les autres pays.
Absolument.
Donc il faut rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire que la question de savoir comment on invente un monde qui puisse préserver du bien-être sans être dans l'excès et sans être dans l'exploitation du reste.
Et on doit ça aussi à l'esprit d'entreprise.
Ça, c'est un défi de l'avenir, mais ça, partir de là, de cet élément que le monde de l'avenir à bâtir est un monde plus équilibré, ne implique pas le fait de cracher sur la réalité.
Vous le disiez, la France est un pays de révolution, de mouvements sociaux. Et si on fait un comparatif avec les autres pays européens, alors il y a différentes études avec différentes méthodes de calcul, mais la France est toujours dans le podium. Alors Chypre, 2000 jours de grève pour 1000 salariés, c'est un classement qui date de 2017 de l'Institut syndical européen. Le Danemark est en troisième position, la France avec 80 jours de grève.
Nathalie Arthaud a l'air perplexe. Vous n'envisagez pas de vous délocaliser à Chypre?
Non, mais je ne sais pas à quoi correspondent ces statistiques, honnêtement. Oui. Bon, moi, ce que je voudrais redire, c'est que oui, je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs, des travailleuses, des salariés, du privé, du public, qui relèvent la tête, qui disent ça suffit. Et c'est ça qui nourrit effectivement.
Mais relève la tête depuis des siècles.
Mon optimisme. Parce que quand on regarde la situation, eh bien, cela recule. Cela recule pour le monde du travail. Parce qu'au niveau de la garantie de l'emploi, regardez, il y a 30 ans, avoir un emploi, c'était avoir un CDI. Voilà, c'était pouvoir construire sa vie autour de ça. C'était pouvoir effectivement faire ses projets, se réaliser, pouvoir se projeter,
mais les
etc.
Pas ça,
il y a 30
ça.
Ans, la retraite, c'était à 60 ans, hein, avec 37,5 de cotisation. Voilà, il y avait des salaires qui progressaient. Et c'était des générations qui étaient convaincues que leurs enfants vivraient mieux.
Mais Nathalie Arthaud,
aujourd'hui,
cela recule.
Est-ce qu'il faut garder le même
niveau?
L'espérance de vie a aussi considérablement augmenté.
Mais est-ce que l'espérance de vie a augmenté, la productivité aussi a considérablement augmenté. Aujourd'hui, ce que faisait, je sais pas, une dizaine de personnes peut être fait par deux, par trois personnes. Ça veut dire que les richesses qu'on crée sont incomparablement plus importantes qu'il y a 30 ans.
Oui, mais enfin maintenant, un salarié, un actif va devoir payer pour quatre retraités.
Pourquoi le progrès devrait-il être réservé à une minorité? Et c'est le cas aujourd'hui. Le progrès est réservé, oui, bien sûr, à une élite de plus en plus. Et on est dans une société, moi je suis pour l'excellence.
On soigne tout le monde.
Mais je suis contre. Je suis contre l'élitisme, je suis contre cette sélection.
L'Internet est pour tout le monde.
Tout à l'heure, vous disiez, moi je suis pour que les jeunes étudient. Mais bien sûr, mais justement, ils se battent aussi pour que l'ensemble de la jeunesse étudie. Parce que moi, je suis aussi contre cette sélection à la faculté. Parce
mais
que
la sélection
je travaille avec des jeunes. Des jeunes, ils vont...
Tirage au sort.
Ils vont avoir... Mais arrêtez, le tirage au sort, c'est de la grosse intox. Le tirage au sort d'APB, c'était sur 10 000 étudiants sur certaines filières. Aujourd'hui, le problème à la faculté, c'est qu'il manque des places, tout simplement. C'est qu'il faudrait créer des places en IUT, en BTS. Il y a 40 000 bacheliers supplémentaires chaque année. Et l'État crée 20 000 places de
plus. Vous avez totalement raison. Il faut créer des places en IUT, en BTS. Il faut créer des places dans des filières professionnelles. Il faut rappeler à beaucoup de jeunes qu'il y a des débouchés, par exemple, dans les filières industrielles, des filières technologiques, et que, au contraire, c'est quand on s'oriente vers les filières tertiaires que là, on a le moins de chances de trouver de travail. C'est tout ça qu'il faut rééquilibrer. Or, là, ce que demandent ces jeunes gens, c'est le droit de passer 5 ans en licence de psycho ou de STAPS, où c'est déjà totalement bouché. Donc, je ne dis pas que la loi qui est faite est la meilleure qui soit, et je pense qu'elle occulte le vrai problème, qui est une réflexion sur le sens de l'université et le rôle des différentes filières. Et que c'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Mais je ne pense pas que leur combat soit le bon. Je pense que le combat doit se déplacer vers la valorisation de filières qui sont des filières plus courtes, parce que ça ne sert à rien d'allonger artificiellement la durée des études et de faire rentrer les jeunes gens sur le marché du travail à 27 ans. Il faut des formations de qualité, mais dans des domaines variés. Et en effet, IUT, BTS, en garantissant des places à ceux qui viennent de filières professionnelles et technologiques, alors qu'aujourd'hui, c'est les filières générales qui squattent les places dans
c'est pas le cas.
C'est tout ça qu'il faut faire.
On a vu ces scènes.
Il faut plus de places. Et ça, l'État ne le fait pas.
Non, mais pas à la fac, pas en STAPS.
Il faut vous arrêter.
Nathalie Arthaud, il y a effectivement, on voit des manifestants qui ont toujours accompagné le président de la République, les ministres, et évidemment, il faut à la fois les entendre, mais ce n'est pas ça l'expression démocratique. L'expression démocratique, elle s'exprime dans des urnes. On constate également que 2 Français sur 3 sont favorables à cette réforme de la SNCF. Donc là, il y a un vrai problème démocratique aussi.
Ah, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La démocratie, elle s'exprime de partout, excusez-moi, mais dans les élections, dans le cadre des élections, vous savez très bien comment cela marche. En particulier, on se souvient quand même de comment M. Macron a été élu. C'était 18% des inscrits au premier tour. Et au second tour, il était contre Marine Le Pen. Alors autant dire que ce n'est pas votant pour Macron au deuxième tour que les millions d'électeurs se sont exprimés.
Qui vos thèses,
donc en fait, les élections, elles déforment énormément l'opinion publique.
Oui, mais enfin, vous le savez. Vous ne pouvez pas soutenir ce langage, alors que le candidat que vous souteniez a fait quoi, 1% des voix?
C'était moi la candidate,
ah oui, la candidate
en d'ailleurs.
C'est encore pire. Excusez-moi, je voulais pas.
Donc,
voulais
pas,
insulter. Mais si, bien sûr,
parce que j'ai été moi aussi.
Monsieur Poutou, les électeurs vous ont désavoué, Madame Arthaud.
Mais moi aussi, j'ai
ils
été
cruellement désavoué.
Mais moi aussi, j'ai été victime de ce système électoral.
Je précise, Roselyne, qu'il ne faut pas mélanger. Le programme de Philippe Poutou et le programme de Nathalie Arthaud n'étaient pas les mêmes. Pour les avoir étudiés, il y a des différences.
Voilà, il y avait quand même des différences.
Mais c'est quand même
moi aussi, parce que justement, les élections, elles déforment l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit toujours...
Oui,
mais vous savez, le vote utile. Combien de fois j'ai entendu parler du vote utile ? Ah, mais moi, je suis d'accord avec vous.
Vous prenez
mais,
les Français pour
mais
des imbéciles.
Je fais des calculs compliqués. Je fais des calculs, et donc je vote pour un tel au premier tour pour ne pas avoir lui au deuxième.
Enfin,
bref.
Refaire le match de la présidentielle.
Bref, moi, je pense que c'est tout à fait...
N'utilisez pas l'argument du...
C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Bien sûr, les gens s'expriment dans la rue, voilà, dans la rue, dans les manifestations, c'est tout à fait normal. Et quand j'entends que cette grève, oui, elle coûte de l'argent à beaucoup d'entreprises, elle fait du mal à l'économie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, eh bien, que les entrepreneurs... prennent leur téléphone, ils ont une ligne directe avec l'Élysée. Hein. Donc, comme ça, ils peuvent discuter avec Macron, lui dire ce que c'est. Parce qu'en réalité, cette réforme-là, cette réforme de la SNCF...
L'Élysée a beaucoup de lignes, hein. Plein de lignes.
Et non, même pas d'attente.
Je garantis que le petit restaurateur au coin de ma rue n'a pas le téléphone
direct.
Ils n'ont même pas
mis en attente.
Mais si vous voulez, j'ai perdu le fil.
Pourquoi il ne prend pas le téléphone, vous ?
Parce que cette réforme de la SNCF, honnêtement, c'est en réalité, c'est une leçon politique que Macron a voulu faire là-dedans, parce que rien ne le poussait à attaquer comme ça les cheminots, et rien ne le pousse à attaquer comme ça le statut, c'est-à-dire les conditions de travail, de salaire, l'emploi, la petite sécurité de l'emploi que les cheminots, rien ne le pousse à ça. Et d'ailleurs, il l'explique lui-même, Monsieur Édouard Philippe explique qu'il n'y a aucun lien entre la dette et le statut. Donc, rien ne le poussait à ça. En réalité, s'il l'a fait, c'est une leçon politique. Il a fait sauter le verrou du Code du travail. Il dit, là aussi, j'ai un autre verrou à faire sauter, le statut des cheminots. C'est symbolique.
Ça
sera la démonstration de ma force. Hein. Moi, finalement, je vais y aller. Personne, rien ni personne ne m'arrêtera. Donc, c'est ça qu'il a voulu faire. Alors, si, effectivement, il y a des patrons qui sont en colère, hein, par rapport à cette situation, eh bien, qu'ils aillent demander des comptes à Macron. Mais moi, ce que j'espère, c'est que cette grève, elle va marcher. Et j'en profite justement pour dire, si je voulais dire...
Vous ne laissez pas intoxiquer,
Cinq secondes, Nathalie Arthaud.
Je voulais juste dire que là, il y a une petite musique aussi, ces contestations, elles n'y changeront rien.
La vieille technique.
C'est ce que Macron a fasciné. D'abord, ma ligne directe avec Macron me fascine.
Je pense que le rapport de force peut changer des choses. Et si les cheminots continuent, eh bien, ils peuvent être en mesure de changer les choses.